Bonjour et bienvenue dans Europe & Roll. Découvrez tout de l'actualité des jeunes européens. Après le Flash Info et le Zoom Actu habituel, voilà le programme pour aujourd'hui, le Sud-Est. Cette semaine, s'est tenue une conférence du commissaire européen à l'élargissement Olli Rehn sur des thèmes très actuels, la Turquie et les Balkans. Europe & Roll aborde le sujet sur un angle différent pour vous montrer un autre visage de ces contrées lointaines. Nous parlerons donc d'élargissement, mais aussi et surtout de rock'n'roll. Mais tout d'abord, un tour d'horizon de l'actualité européenne par Maxime.
Ukraine, une coalition orange en vue après les élections. Les élections législatives anticipées du dimanche 30 septembre en Ukraine ont donné la victoire aux deux partis du président Viktor Yushchenko et de son ancienne alliée Yulia Tymoshenko. Leurs partis réunis ont obtenu environ 44% des voix contre environ 40% pour le parti des régions de l'opposant pro-russe Viktor Yanukovych et de ses alliés. Une coalition orange pro-occidentale devrait donc se mettre en place et Yulia Tymoshenko devrait être à nouveau nommée Premier ministre. Ces élections anticipées devaient mettre fin à une crise politique chronique due à la cohabitation entre ceux que l'on appelle les deux Victors, le président Yushchenko et son rival Yanukovych. L'Ukraine, on en reparle après le flash dans le Zoom Actu. Belgique, une sortie de crise en vue. Un rapport remis au roi Albert II samedi 29 septembre fait état d'avancement dans les négociations entre les démocrates chrétiens flamands et les libéraux wallons qui permettent aujourd'hui d'envisager à nouveau la formation d'un gouvernement. On le rappelle, depuis les élections du 10 juin, la Belgique est sans gouvernement car le parti wallon vainqueur refuse d'entrer en coalition avec le parti flamand vainqueur dont le programme vise à accentuer l'autonomie de la Flandre. C'est à nouveau le flamand Yves Leterme qui a été appelé à former ce gouvernement. Pour autant, les négociations vont continuer avant d'arriver à un accord qui sortira le pays de la crise. Grande-Bretagne, des troupes bientôt retirées d'Irak. Le Premier ministre britannique Gordon Brown a annoncé mardi 2 octobre lors d'une visite à Bagdad qu'un millier de soldats pourraient être rapatriés en Grande-Bretagne avant la fin de l'année. Cette annonce de Gordon Brown marque un changement par rapport à l'attitude de son prédécesseur Tony Blair, qui s'était aligné sur la position des États-Unis en ce qui concerne la guerre en Irak. D'autre part, il se pourrait que le nouveau Premier ministre déclenche prochainement des élections anticipées. Ce retrait de soldats devrait donc lui être favorable aussi sur un plan électoral. Et en bref, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il pourrait devenir Premier ministre après l'élection présidentielle de 2008, une façon de rester au pouvoir alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Et le traité simplifié est prêt à être ratifié, a indiqué le Portugal qui détient actuellement la présidence de l'Union européenne, même si quelques points pourraient être à nouveau négociés prochainement.
Avant de retrouver Maxime et ses explications sur l'Ukraine, voilà une petite mise en bouche musicale avec le groupe slave PA.
Yeah. Bakir.
Bazarek.
Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Comme promis, Europe & Roll fait le point sur l'actualité en Ukraine et revient sur les faits marquants qui ont mené à cette situation.
On vient de le voir, l'Ukraine est plongée dans une crise politique chronique depuis la fin de la fameuse révolution orange de 2004. Celle-ci avait abouti à l'élection du pro-occidental Viktor Yushchenko à la présidence de la République. Mais après cette révolution, les Ukrainiens ont connu des lendemains qui déchantent entre crise du gaz, conflit politique et cohabitation. Une petite chronologie. Le président Viktor Yushchenko devient officiellement président de la République en 2005 après la révolution orange. Il nomme son allié Yulia Tymoshenko au poste de premier ministre. Cependant, cet élan est très vite freiné par la crise du gaz fin 2005. Le fournisseur russe Gazprom annonce en effet son intention de mettre fin aux tarifs privilégiés dont bénéficiait l'Ukraine en tant qu'ancien pays de l'URSS. Les deux pays se menacent respectivement jusqu'à ce qu'un accord soit finalement conclu début 2006. Entre-temps, la première ministre Tymoshenko a été limogée par le président en raison de conflits au sein de l'équipe gouvernementale. C'est une première brouille entre les deux représentants de la révolution orange. En mars 2006, le Parti des Régions, formation pro-russe de l'ancien président Viktor Yanukovych, arrive en tête des élections législatives. Cependant, un accord entre le parti présidentiel, le parti de Yulia Tymoshenko et les socialistes permet de former une coalition empêchant une cohabitation. Mais nouveau rebondissement en juillet, après des mois de négociations, les socialistes quittent la coalition et la majorité dans la chambre bascule du côté pro-russe. Le parti Notre Ukraine du président entre alors en coalition avec le Parti des Régions et Yanukovych devient premier ministre. Commence alors une période difficile de cohabitation entre deux rivaux. De plus, des scandales touchent le président, tandis que Yulia Tymoshenko, restée dans l'opposition, dispose d'une grande popularité. En avril 2007, le président Yushchenko décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale et ainsi de provoquer des élections anticipées et mettre fin à la crise. On l'a vu, ces élections ont donné la victoire aux partis pro-occidentaux et Yulia Tymoshenko devrait être à nouveau nommée premier ministre. C'est une nouvelle période qui s'ouvre pour le pays, pour oublier les crises et la désillusion qui a suivi une révolution pourtant pleine de promesses.
Merci Maxime. On continue notre programmation musicale dans les Balkans avec le groupe bosniaque Sik Sik Bogodi.
Aj, sam nisam takav ja, aj,
Passons maintenant au sujet brûlant de l'élargissement. L'élargissement de l'Union européenne est perçu en France comme une menace. Alors, qu'en est-il du mythe du plombier polonais ? Invasion, délocalisation en masse et libéralisme sauvage ont inquiété les Français lors de l'entrée ces dernières années de ceux que l'on appelle les pays de l'Est. Pourtant, 3 ans après, pas de vague migratoire, ni de paralysie institutionnelle au sein de l'Union européenne. L'élargissement est progressif et bien maîtrisé. L'élargissement, c'est plus un train corail qu'un TGV, mais ce qui importe, c'est qu'il soit bien ancré sur ses rails. C'est cette image qu'utilise le commissaire européen Olli Rehn avec son inimitable accent finlandais. Et pour la suite du programme, doit-on continuer à accueillir de nouveaux voisins? Au programme de l'Union européenne, les Balkans. La Croatie, nouvelle destination en vogue sur le littoral méditerranéen, est déjà candidate et tente de remplir les critères d'adhésion. De même pour la Macédoine. En 2003, lors du sommet de Thessalonique, les chefs d'État européens ont fait une promesse. Intégrer les Balkans dans l'Union. On voit aujourd'hui que c'est inéluctable. Tous les pays de l'ex-Yougoslavie sont encerclés par les pays membres de l'Union. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. La Serbie et le Kosovo représentent un véritable défi pour l'Union européenne. Sur fond d'extrémisme et de génocide, elle doit assurer la stabilisation de cette poudrière balkanique. En Serbie, 70% des étudiants n'ont jamais quitté leur pays. Les visas sont chers. Le régime très peu ouvert. L'Union européenne prétend leur apporter paix, justice et démocratie. Et pour nous, Européens de l'Ouest, ce serait l'occasion de découvrir les richesses d'une nouvelle région d'Europe du Sud. Prenons le Exit Festival par exemple. Le Exit Festival de Novi Sad, deuxième ville de Serbie, est le plus grand rendez-vous rock'n'roll de l'Europe du Sud-Est. Créé en opposition au régime liberticide de Milošević, il attire la jeune génération de l'ex-Yougoslavie. Chaque année, des milliers de jeunes se retrouvent ici au nom de l'amour, de la tolérance et de la liberté en distribuant des branches d'olivier sur fond de concerts de Garbage, des White Stripes ou encore Fatboy Slim. Une sorte de hippies modernes. Les jeunes serbes semblent donc avoir vocation à rejoindre les valeurs de l'Union européenne, même s'il leur reste beaucoup de chemin à parcourir pour remplir les critères d'adhésion. Quant au Kosovo, le défi est encore plus grand. Il faut trouver une solution négociée entre les différentes communautés, et ce n'est pas tâche facile. Lorsque l'Union européenne avait intégré Chypre comme pays membre, elle n'avait pas réussi à surmonter la division de l'île entre Turcs et Chypriotes. L'Union parviendra-t-elle à de meilleurs résultats avec la Serbie et le Kosovo? Et plus loin au sud-est, qu'en est-il? On enchaîne avec l'épineuse question de la Turquie après une pause musicale ambiance Balkan traditionnelle.
Direction la Croatie avec Luka Nizetić et sa chanson Evoti Ljubav.
Yeah. moje drago, evo ti nešto za kraj, evo ti sva ona jutra, između nekad i sad.
Evo ti ljubav, o kako mrzim tu riječ, evo ti ljubav, kad je tako brzo prošla. Evo ti ljubav, kao rijeka čista, evo ti ljubav, kao suza bistra, evo ti ljubav.
Europe and Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Comme annoncé, on continue avec la question de la Turquie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Turquie ne fait pas consensus en Europe occidentale. Les citoyens européens ont peur de l'intégrer. Pourtant, la Turquie présente de nombreux points positifs. Elle offre des débouchés économiques et un approvisionnement énergétique pour l'Europe. La France y est d'ailleurs le deuxième investisseur. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe et de l'OTAN depuis 1952. Et enfin, elle est un exemple de démocratie pour tout le Moyen-Orient. Le premier président turc Mustafa Kemal Atatürk a insufflé à son pays des valeurs occidentales qu'il a gardées jusqu'à aujourd'hui, malgré la recrudescence de l'islamisme. Pourquoi donc refuser la Turquie dans l'Union? Écoutons Murat, un jeune Turc qui défend cette position.
Voilà Murat, tu nous répondras à quelques questions sur la Turquie et l'Europe et tu veux te présenter pour nos auditeurs?
Enfin très brièvement, écoute, j'ai 21 ans et donc je suis en France il y a déjà 3 ans, donc on est déjà en 2007. Et j'étais à la faculté de droit à Strasbourg et avant j'étais en fait 10 ans dans le système allemand et avant même au lycée français. Et je suis né à Ankara, je suis parti quand j'étais très très jeune en fait en Allemagne.
Alors Murat, tu as vécu en Allemagne, en France et en Turquie? Qu'est-ce qui te manque dans la vie quotidienne?
Tout d'abord, il n'y a pas de grande différence dans la vie quotidienne entre la Turquie et l'Europe. Et puis en France, ce qui me manque, c'est surtout l'hospitalité des gens.
Et à part ça, est-ce que c'est très différent?
Ce n'est pas très différent, comme je disais. Mais sinon, si tu veux, en Turquie, il n'existe pas surtout la vie étudiante en ville comme en France.
Depuis 1963, la Turquie tente de rentrer dans l'Union européenne. À ton avis, pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'Europe est l'entité la plus proche qui fait l'expansion de la démocratie. Et effectivement, la Turquie aussi, pendant l'époque de l'Empire ottoman, essaie toujours de se rapprocher de l'Europe.
Et si la Turquie entrait, qu'est-ce que ça changerait?
Qu'est-ce que ça changerait? Surtout sur le plan économique, ça va changer grande chose, à mon avis, parce que économiquement parlant, l'Union européenne apporte beaucoup d'avantages. Mais sinon, à mon avis, il y aura pas de grands changements parce que la Turquie est déjà à peu près, bon, dire est-ce qu'elle est européenne, c'est pas facile non plus. Mais sinon, je crois que ça va surtout changer quelque chose pour l'Europe, peut-être au niveau justement politique. Mais sinon, à part ça, il y aura pas de grandes différences à part l'économie.
La Turquie est une démocratie assez jeune. Pourtant, les femmes ont eu le droit de vote 40 ans avant la France. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Qu'est-ce que ça m'inspire? Cela montre que la Turquie, même si c'est une démocratie jeune, donne beaucoup d'importance à la démocratie justement. Qu'est-ce que cela m'inspire? Eh bien, je suis fier de mon pays pour cette raison. Et puis, si tu veux, dans cette région tout à fait fragile et très très sensible, le fait que la Turquie avait déjà promulgué la loi pour le droit de vote des femmes, c'est un pas très très important.
Alors, c'est quoi les obstacles pour que la Turquie n'entre pas dans l'Union européenne?
Eh ben, il y a deux obstacles principaux. C'est tout d'abord Chypre, parce que la Turquie ne reconnaît pas Chypre. Chypre a été divisé en deux entités. D'une part, le Chypre grec et puis le Chypre turc. Et puis, il y a la deuxième raison qui est que l'armée est quand même intervient beaucoup dans la démocratie encore, comme je disais, puisque la Turquie, certes, c'est une démocratie, mais effectivement dans une zone fragile où l'armée joue encore le rôle d'un garant de la démocratie.
Et le génocide arménien, c'est pas un obstacle?
Le génocide arménien, effectivement pour la France, c'est un obstacle, mais le Parlement européen l'année dernière, au mois d'octobre, a voté contre le fait que le génocide arménien devrait être une condition préliminaire pour que la Turquie entre dans l'Union européenne. Donc c'est un thème à discuter.
Et tu penses que la Turquie est européenne?
Pour savoir si la Turquie est européenne, il faudra d'abord savoir qu'est-ce qui est européen.
On termine notre programmation musicale en restant en Turquie. C'est un groupe qui porte le même nom que notre étudiant turc, les Murat Boys, avec Maximum.
Europe and Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Et comme je vous ai promis qu'on parlerait rock'n'roll, après le Exit Festival de Serbie, passons à un festival qui est déjà dans l'Union Européenne, le Tiget Festival de Budapest. Écoutez le témoignage de Guillaume au micro de Ulrike.
J'ai au téléphone Guillaume Pillet, qui est ancien membre du groupe de musique Cœur de Sable. Et avec ce groupe, il était aussi au Festival Tiget l'année dernière en Hongrie. Et donc Guillaume, pourrais-tu nous parler un peu du Tiget 2006 ?
C'est un festival qui est sur une île,
oui.
Donc qui est situé sur le Danube, dans la ville de Budapest, entre Buda et Pest. Donc la ville est séparée en deux. Donc c'est une île qui fait à peu près 10 km sur 5, je crois. Et donc il y a une centaine de scènes, et il y a des activités musicales et autres pendant 7 jours. Oui. Et ça n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24, c'est un festival de folie. Et il y a en gros trois grosses scènes. C'est la scène de musique assez rock. L'année dernière, il y avait Iggy Pop, Placebo, Radiohead. Et une autre grosse scène qui est intéressante sur la Music World. Donc là, c'est des artistes africains, maghrébins, Amérique du Sud et tout ça. Donc pareil, c'est une grosse scène.
Okay.
Et après, il y a plein d'autres stages avec de la musique cigane, la musique jazz, blues, électronique. Il y a vraiment de quoi voir dans tous les styles, tout le temps, en permanence. Et comme c'est un lieu fermé, Et bien, il y a une ambiance qui s'installe qui est très très sympa.
Tu as parlé des activités musique et d'autres. C'est quoi les autres activités?
Il y avait il y avait saut à l'élastique, des piscines au chocolat, on se mène dans du chocolat. Enfin, plein de trucs comme ça, c'est marrant, un peu délire, quoi. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'à Budapest, il y a plein de choses à voir. Tu vois, les thermes, les bains, aller voir et tout ça, c'est super sympa.
Comment ça s'est passé pour toi en tant que musicien?
Ça s'est super bien passé, parce que c'était un peu exceptionnel, parce qu'on était l'un des seuls groupes du festival à jouer là-bas sans avoir de disque et sans être signé par un label. Parce que notre manager, en fait, était un des directeurs artistiques du festival il y a quelques années. Nous, c'était un peu exceptionnel.
Et donc, ça veut dire que toi, tu as pu aller écouter quand même un peu les autres musiciens?
Sur les grosses scènes, je suis allé voir Placebo, Radiohead, Iggy Pop. Je suis allé pas mal voir aussi en fin de nuit des scènes électro. Très sympa, il y avait des DJ avec des musiciens. Avait vraiment une bonne ambiance, quoi. J'ai pas vu d'ambiance pas cool, quoi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des gens du monde entier. Vraiment, il y a des Américains, Amérique du Sud, Maghreb, Africains, toute l'Europe. C'est super sympa au niveau de l'ambiance.
Est-ce que tu dirais que c'est à peu près comparable au festival en France ou c'est vraiment particulier?
Disons que le côté un peu cloîtré dans une île, c'est un peu dans un autre monde. Et le fait qu'il y ait plein de scènes, tu peux aller voir n'importe quel style à n'importe quel moment, je pense que c'est assez unique quand même. Je connais pas d'autres festivals équivalents en France et même ailleurs en Europe.
Veux-tu un jour retourner en tant que spectateur au festival ou aussi en tant que musicien?
Ah ben moi, si je pouvais retourner en tant que musicien, je dirais que c'est quand même sympa d'avoir des passes, de pouvoir rencontrer du monde et tout, des autres musiciens. Mais ceci dit, en tant que spectateur, j'y retournerais bien aussi avec plaisir, ouais, parce qu'il se passe vraiment des choses sympas là-bas, quoi.
C'est fini pour l'émission Europe & Roll d'aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes transeuropéennes et 30 minutes de rock. Retrouvez nos émissions, nos sujets et nos musiques sur notre site web europeandroll.eu. Bonne semaine et à dimanche prochain.